France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Au travail, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. On parle souvent des inégalités salariales. Elles se réduisent peu à peu. De plafond de verre, il est sans doute un peu moins épais, mais pas facile à casser. Le sexisme et ses remarques qui sont enfin considérées non seulement comme déplacées, mais discriminatoires. On progresse, mais non, les femmes ne sont décidément pas des hommes comme les autres. Question de sexe, de rythme menstruel, de maternité ou encore de ménopause. Savez-vous que 17 millions de femmes de plus de 45 ans sont concernées dans notre pays? Mais qui ose vraiment en parler au bureau? D'après un sondage Opinionway publié la semaine dernière, une femme sur quatre dit avoir dissimulé ses symptômes par peur d'être discriminée. C'est le dernier grand tabou du moment dans les entreprises. L'écrasante majorité des femmes choisissent de n'afficher aucune fragilité. Et pourtant, c'est un enjeu de santé publique et aussi d'égalité professionnelle dans un monde du travail qui a quand même été historiquement pensé par et pour les hommes. Alors vous, comment ça se passe? À quelles difficultés êtes-vous confrontés? Et comment faites-vous? Nous attendons vos témoignages en tant que salarié ou chef d'entreprise. Dites-nous aussi comment progresser. C'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et je vous présente les invités avec qui vous allez pouvoir dialoguer. Laetitia Vito, autrice et conférencière sur le travail. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes aussi avec Élise Fabing. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate spécialisée dans le droit du travail. Et avec Clotilde Coron.
Bonsoir.
Bonsoir. Professeur en sciences de gestion à l'Université de Paris-Saclay. Le point d'entrée dans cette émission, c'est la ménopause, parce que ça devient un sujet de réflexion aussi au niveau du gouvernement, donc ça va sans doute déboucher sur quelque chose. Est-ce que c'est, au fond, vraiment le dernier grand tabou dans les entreprises, Laetitia Vito?
Oui, c'est le dernier grand tabou. On a depuis une bonne quinzaine d'années beaucoup parlé des règles. On a banalisé le fait de l'ouvrir sur le sujet. Et sur la ménopause, ça fait que 3-4 ans, donc on est encore qu'au début. Moi, je dirais que ça fait 3-4 ans qu'on commence à en parler, y compris dans le monde du travail. Mais comme vous l'avez dit, l'écrasante majorité des femmes préfèrent cacher leurs symptômes de peur que ce soit qu'elles donnent des bâtons à leur employeur pour les battre.
C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui...
C'est-à-dire le fait d'être perçue comme avec ce que Susan Sontag appelait il y a 50 ans le double standard du vieillissement, c'est-à-dire le fait que les signes visibles du vieillissement desservent les femmes dans leur vie professionnelle, alors qu'ils ont tendance à améliorer la perception des hommes qui sont vus comme plus crédibles, plus experts, plus expérimentés, voire même plus séduisants, avec des tempes grisonnantes. Et il y a une espèce de double peine pour les femmes. Elles ne sont pas perçues comme séduisantes, c'est plus séduisantes même lorsqu'elles le sont. Les signes du vieillissement sont en général utilisés pour les décrédibiliser.
Donc on les considère comme moins performantes?
On les considère comme moins performantes et les signes, notamment les symptômes de la ménopause, vont être utilisés comme on utilisait les règles pour dire « tu es hystérique aujourd'hui, est-ce que c'est parce que tu as tes règles ?»
On va prendre tout de suite Pascal qui est dans les Hautes-Alpes. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Eh ben, voilà, j'ai contacté la radio parce que je me suis complètement concernée. J'ai 55 ans.
Oui.
Donc, c'est tout juste derrière moi. Ce que je veux dire, c'est que la ménopause, c'est insidieux. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Moi, j'ai eu des migraines violentes qui me faisaient vomir la nuit. Des bouffées de chaleur ingérables. Une humeur massacrante certains jours. Et j'ai pris du poids. Mais tout ça, je suis adjointe dans un collège. Je ne l'ai jamais mis en avant dans mon travail, c'est-à-dire que je n'ai jamais raté de journée de travail. Pour autant, j'en ai toujours parlé, mais plutôt sur un ton d'humour, parce que pour moi, c'était important. Ah. Et je me rends compte que, quand on en parle, on passe pour des féministes plus, quoi. Alors que c'est pas ça, c'est un état.
Et ça désamorce pas, justement, les critiques quand on les aborde sur le ton de l'humour? Parce que ça paraît plutôt malin, justement.
Alors, de ma partie, hein, parce que moi, j'en parlais à tous mes collègues, à mon équipe. Hein, quand j'avais vomi la nuit, j'en parlais. Mais pour autant, j'étais là. J'ai jamais été absente. C'est ça que je veux dire. Et je le relis juste un petit peu. Moi, j'ai ma fille qui a de l'endométriose, sur lequel on n'avance pas. Mais en même temps, on n'a jamais parlé de ménopause. Mmh. Et c'est dommage, en fait. Mmh. Voilà, parce que pour avancer d'un côté ou de l'autre, eh ben, quand on a des changements hormonaux tels que provoque la ménopause ou la...
Continuez.
Eh ben, c'est ne pas en parler. On trouve que c'est nous cadenasser, quoi, en fait. Voilà.
Oui, oui, absolument. Donc, il faut en parler, mais il faut arriver à le dire. Il faut arriver à le dire, ouais. c'est pas forcément
mais
évident.
Tout à l'heure, j'entendais, par exemple, décaler les horaires de travail.
Oui.
Quand on n'a pas dormi de la nuit, ben, nous permettre d'arriver. Enfin, je trouvais l'idée intéressante. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai eu des nuits massacrantes, hein, qui m'ont épuisée par la suite, parce que j'ai une grosse charge de travail aussi. Mais non, on n'en parle pas. Moi, à l'âge que j'ai, je suis entourée par des couples qui ont mon âge. La ménopause, on n'en parle absolument pas.
Même entre vous. C'est un tabou. C'est quand même... Merci beaucoup d'avoir témoigné, Pascal. C'est un tabou aussi dans notre société. En général, Clotilde Coron, la ménopause, on n'en parle pas.
Non, effectivement, c'est un sujet... Autant on parle beaucoup de maternité, de cet âge un peu... de cette période particulière pour les femmes, autant on parle très peu de la ménopause, qui est plutôt vue comme... finalement, les femmes, ça y est, la parentalité est derrière elles. Elles peuvent se consacrer pleinement à leur vie professionnelle. Et donc, on oublie totalement les aspects la gêne qu'il peut y avoir pour certaines femmes, les aspects médicaux, les aspects donc liés à cette période de la vie.
Et c'était intéressant ce que nous disait Pascal, parce qu'elle disait « je n'ai jamais été absente ». Ça veut dire qu'elle n'a rien lâché.
Oui. Alors ça, je pense que c'est important de souligner, mais c'est ce que vous avez dit, c'est que les entreprises, elles sont faites plutôt par les hommes, pour les hommes, avec ce qu'on appelle la norme du travailleur idéal. Donc ce travailleur idéal, c'est quelqu'un qui est très disponible pour son travail, qui est tout le temps présent et qui n'a pas de contraintes personnelles. Alors ça peut être des contraintes liées à la famille et ça peut être aussi des contraintes liées à l'état de santé. Et donc là, on est vraiment là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer quand on a des faiblesses ou quand on ne correspond pas à cette norme du travailleur idéal.
Mmh. Vous confirmez, Laetitia ?
Oui, le travailleur idéal, c'est un homme sans enfant, jeune, qui n'est pas handicapé non plus, qui n'est pas malade. Et tout ce qui ne correspond pas est hors norme. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce tabou, il continue d'être maintenu. C'est comme si on était des exceptions ou des travailleurs non idéaux et qu'il fallait se mouler dans cette espèce d'universel. Or, l'universel... Il est double. L'universel, il est aussi féminin. Il est peut-être même un peu plus féminin que masculin, parce qu'on est quand même 52% de la population.
Mais fondamentalement, en fait, c'est ça le problème, c'est que l'économie et le travail ont été pensés par les hommes pour les hommes. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, Laetitia.
Toute la science économique, ça commence avec...
Ça remonte à quand ?
Ça remonte à Adam Smith, que l'on considère être le premier économiste de l'histoire et qui a parlé du miracle du dîner, comment le boucher, le charcutier, le primeur, grâce au marché, ça fait que chacun, en poursuivant son intérêt individuel égoïste, ça donne la magie du dîner. Et il a oublié que c'était sa maman qui lui avait servi à manger, qui avait préparé les aliments gratuitement. Comme si... Quand on passait la porte du foyer, on n'est plus dans l'économie. Et tout ce travail gratuit, domestique, il ne fait pas partie de l'économie. Il est invisible et invisibilisé. Depuis Adam Smith, c'est toute la science économique qui a invisibilisé le travail féminin.
Clotilde ?
Oui, en effet, le capitalisme en fait, fonctionne grâce à cette invisibilisation du travail qu'on appelle reproductif, donc qui est plutôt le travail non rémunéré. Et même la critique du capitalisme, c'est-à-dire que même, par exemple, Karl Marx avait raté cet aspect-là, alors que c'est fondamental dans le capitalisme, le fait qu'il y ait un travail qui n'est pas rémunéré, qui est assuré, en l'occurrence, par les femmes, qui n'est pas considéré comme du vrai travail. Mmh. Et qui, finalement...
Donc ça veut dire que, quelque part, encore aujourd'hui, le travail des femmes, c'est pas tout à fait un vrai travail.
Ah bah oui, enfin en tout cas le travail...
On va dire, il en reste quelque chose, parce qu'évidemment c'est pas aussi caricatural que ça, mais il reste quelque chose de cette culture-là de départ.
Oui, par exemple, l'idée que l'homme est le principal pourvoyeur de revenus dans le foyer, c'est une idée qui est très répandue en Europe et qui est répandue y compris dans les couples à double carrière, c'est-à-dire dans les couples hétérosexuels où l'homme et la femme travaillent, c'est beaucoup plus fréquent que la femme estime qu'elle n'est pas le principal pourvoyeur de revenus de son foyer. Donc on voit que cette image perdure, hein, l'idée que finalement le travail des femmes est secondaire.
Allez, on va poursuivre cette conversation avec Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, moi, je travaille dans une entreprise de 30 salariés. Je suis déléguée syndicale et j'ai travaillé cette année sur un avenant à notre accord d'entreprise pour les congés menstruels et préménopause et ménopause, de façon à octroyer aux salariés des jours de congés exceptionnels en fonction de leur état, moyennant aussi une confidentialité. Enfin, voilà, on a travaillé sur un document sera signé prochainement avec la direction.
Vous avez mis beaucoup de temps à convaincre votre direction ou c'était finalement assez évident ?
C'était très évident et très facile, voilà, de mettre en place ce document et d'arriver à pouvoir le finaliser.
Ça veut dire que les femmes dans votre entreprise ont osé en parler ?
Oui, elles ont osé. Moi-même, en tant que femme, j'ai amené ce projet aussi. Mmh. Ça a été assez simple.
Mmh. Des aménagements du temps de travail, ça c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux, Clotilde Coron.
Je pense que lever le tabou, c'est aussi quelque chose d'important. Il peut y avoir des aménagements du temps de travail, je pense que c'est une mesure qui est très intéressante, mais qui contribue au fait que les femmes vont dévier de cette norme du travailleur idéal en même temps, donc ça peut être un peu à double tranchant. Il y a aussi des entreprises qui font d'autres choses, par exemple avoir des salles où on peut régler mieux la climatisation, mettre à disposition des vestiaires, des douches pour pouvoir se changer en cas de bouffée de chaleur, par exemple. Donc il y a vraiment aujourd'hui différentes choses qui sont faites par les entreprises sur ce sujet, en tout cas pour les entreprises qui abordent le sujet, parce que comme on l'a dit, c'est pas forcément le cas partout.
Oui, et les femmes ne sont que 2% à dire avoir bénéficié d'un aménagement de leur temps de travail. Ça veut dire qu'on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Nathalie et son entreprise sont une exception. On essuie aussi des moqueries, des blagues encore là-dessus, où ça passe, Laetitia ou Clotilde?
J'ai envie d'être optimiste. Je me souviens de cette époque où on avait parlé de Sandrine Rousseau en disant une Greta Thunberg ménopausée. Et les retours des auditeurs et puis les critiques qu'a essuyé la personne qui a prononcé cette phrase-là ont montré que ce sont des genres de phrases qu'on entend moins volontiers aujourd'hui et qui passent quand même moins bien. Après, oui, les femmes les entendent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui, ce genre de phrases. Mais je pense qu'on se tait un petit peu moins.
Mmh. Élise Fabing, vous êtes avocate spécialisée du travail. Vous avez plus de clients hommes que femmes.
Oui.
Ça veut dire que l'inégalité, elle commence là, en fait.
À l'accès à l'avocat, tout à fait. Les femmes sont plus dures au mal. Elles vont mettre plus de temps à aller me consulter. C'est empirique, hein, alors que j'écris des livres sur les femmes, mes prises de position sont plutôt féministes. Mais malgré cela, elles vont avoir du mal aussi à investir pour elles-mêmes, pour leur défense, parce qu'il y a cette culture du don de soi et le syndrome aussi de la bonne élève. Donc elles vont tout le temps se remettre en question et se dire que c'est peut-être de leur faute si elles sont discriminées. Que peut-être qu'elles n'ont pas assez bien fait leur travail, etc. Et moi, je passe énormément de temps à leur expliquer que c'est souvent systémique. Et, elles vont venir vraiment quand le corps lâche, quand elles sont au bout du rouleau et qu'il n'y a pas d'autre solution. Et parfois, c'est un peu tard par rapport à un homme qui aura anticipé le contentieux. Les femmes n'auront pas vraiment préparé leur dossier, donc ça va être plus difficile de les défendre.
Mmh. Vous disiez, c'est systémique. Clotilde Coron, vous avez écrit il y a 2 ans, stéréotypes de genre et inégalités professionnelles, donc vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Oui, c'est systémique.
Ah oui, c'est totalement systémique. C'est-à-dire que le monde du travail s'inscrit dans un système beaucoup plus global, sociétal. En fait, ce système sociétal, déjà, il y a des inégalités, il y a des stéréotypes, et tout ça se retrouve dans le monde du travail. Mais le monde du travail n'est qu'une partie de ce système. Donc, par exemple, il y a un stéréotype qui est très répandu sur le fait que les femmes font des meilleures mères que les hommes ne font de pères. Donc, les mères sont mieux placées pour s'occuper de leurs enfants que les pères. C'est un stéréotype qui est très répandu en France comme en Europe, chez les femmes comme chez les hommes. Mm-hmm. Ce stéréotype, il est intériorisé sans doute dès le plus jeune âge. Il va influer sur les comportements des individus, il va influer aussi sur les choix des recruteurs qui vont peut-être hésiter à prendre une femme en âge d'être mère. Et il va influer sur les politiques publiques aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques publiques, elles favorisent quand même plus le fait que les mères s'occupent de leurs enfants avec un congé maternité qui est beaucoup plus long que le congé de paternité.
Et le congé paternité, il a quand même été allongé.
Oui, mais ça reste beaucoup plus court que le congé de maternité par rapport à d'autres pays. Par exemple, en Espagne, le congé de paternité est beaucoup plus long. Et en plus, il n'est pas obligatoire. Donc, il n'y a qu'une petite partie qui est obligatoire, alors que le congé maternité, il est obligatoire.
Et d'ailleurs, il n'y a que 30% des pères qui en profitent.
Oui, mais c'est là qu'on voit cette question de la norme du travailleur idéal.
Et pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, en fait, de perdre certaines de leurs responsabilités ou de perdre une promotion. Oui, donc, toujours... Vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, mon premier dossier de discrimination à la paternité. Et ça m'a fait presque plaisir, parce que c'est un petit pas pour l'égalité. C'est pas une bonne chose pour mon client, mais en tout cas, j'ai des placards entiers de dossiers de discrimination à la maternité. Et là, un appel, discrimination à la paternité dans un cabinet médical. Et on a reproché à mon client d'avoir pris son congé paternité. Mmh. Voilà, c'était noir sur blanc, écrit, et vraiment avec ce sentiment d'impunité de ses patrons sur ce sujet-là, qui était extrêmement libre à l'écrit. Je suis toujours frappée par cela, par le fait qu'on puisse se lâcher à l'écrit sur ce type de sujet. C'était extrêmement clair, donc facile à défendre. Et c'était une première pour moi en 15 ans.
Et on peut dire que, puisqu'on aborde la maternité, là justement, ça a été prouvé au niveau économique, il y a eu énormément d'études là-dessus, qu'un congé maternité, ça ralentit les carrières de façon systématique, en fait, Clotilde.
Oui, tout à fait. Hein. C'est ce qu'on appelle le family pay gap. Enfin, c'est le fait que l'écart salarial entre les femmes et les hommes, il est beaucoup plus important chez les personnes qui ont des enfants que chez les personnes sans enfants. C'est-à-dire que les femmes sans enfants, finalement, elles sont assez proches des hommes en termes de salaire, mais le décrochage se fait vraiment à partir de la naissance du premier enfant. Il y a un autre fait que je trouve assez intéressant, c'est que les mères, donc les femmes avec enfants, sont la seule catégorie de salariés dont la probabilité de promotion ne croît pas avec le nombre d'heures travaillées. C'est-à-dire qu'elles ont beau travailler plus, elles n'ont pas plus de chances de promotion. Et ça, c'est parce que là, on a parlé de la norme du travailleur idéal. Mais les femmes, en fait, elles sont face à une injonction entre la norme du travailleur idéal et la norme de genre. La norme de genre, pour les femmes, c'est quand elles sont mères, de s'occuper de leurs enfants. Donc en fait, une femme qui travaille beaucoup, elle s'éloigne de la norme de genre, et donc elle est pénalisée.
Donc c'est suspect, en fait.
C'est suspect. Et de toute façon, s'éloigner d'une norme, malheureusement, on est toujours pénalisé. Mais c'est vraiment le fait que ces deux normes sont contradictoires.
Laetitia, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, à ce qu'on a, le prix Nobel Claudia Goldin a appelé la pénalité maternelle, c'est-à-dire ce moment où il y a vraiment un décrochage, une perte de revenus, et ça se poursuit avec la ménopause. Il y a une étude britannique récente qui a parlé de pénalité ménopausique, avec cette idée que là aussi, l'éloignement du travailleur idéal qui se produit à la ménopause cause cet éloignement, lui aussi, une perte de revenus chez les femmes qui vont avoir plus de mal à être davantage à temps plein, avoir une carrière qui progresse, vont être dans des trappes à temps partiel, avoir des trous dans le CV, enfin voilà. Et donc la deuxième partie de carrière, quand les choses pourraient s'arranger, parce qu'il n'y a plus d'enfants en bas âge, eh ben non, malheureusement, elles ne s'arrangent pas. Et c'est peut-être cet éloignement du travailleur idéal qui continue de l'expliquer.
Est-ce que vous avez déjà des premiers cas, justement, de femmes
énormément
en situation de ménopause et qui viennent vous voir Élise Fabing, puisque vous êtes avocate, je le rappelle.
Oui, j'en ai beaucoup. Et puis, les femmes, à ce moment de leur carrière, sont extrêmement vulnérables. Parce qu'il y a énormément de discrimination liée à l'âge chez la femme. C'est statistique. Hein. Et dans les dossiers, je vois que particulièrement les femmes cadres avec des fonctions commerciales ou de représentation vont être écartées de leurs fonctions, parfois déclassées, rétrogradées. Et elles sont dans des situations très compliquées parce que sur le marché de l'emploi, elles ne sont plus désirables. Et on a une responsabilité de l'État quand même, une indemnisation de l'État avec France Travail qui est en décroissance. Donc ces femmes qui sont discriminées à 55 ans vont s'accrocher à leur boulot parce qu'elles sont trop jeunes pour arrêter de travailler et qu'elles vont avoir énormément de mal à retrouver un emploi. Et j'ai des dossiers terribles avec des femmes qui vont vraiment au travail avec la boule au ventre, en larmes et dans des états pas possibles. Donc il y a un vrai sujet et quand on dit à une cliente que ménopausée, elle ne peut plus rien vendre, ben en fait c'est révoltant. Il y a un problème de culture aussi et de vision de la femme, de ce qu'elle peut apporter.
On les déféminise.
Mais bien sûr, on les déféminise et c'est hyper humiliant, elles perdent confiance en elles et c'est extrêmement douloureux.
On repart au standard. Bonsoir Florence.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, soyez la bienvenue.
Alors voilà, j'apporte un témoignage un peu contraire, c'est-à-dire que moi en fait, j'ai trouvé un environnement de travail qui m'a véritablement sauvée à un moment très difficile où à la fois il y avait la ménopause, la maladie de deux de mes enfants, une maladie mentale assez importante, le décès de ma mère, enfin c'était vraiment très très compliqué et j'ai eu un environnement de travail à la fois empathique, bienveillant, discret et qui m'a sauvée, je peux le dire. C'est bien sûr, j'avais certainement bâti quelque chose. Je pense que j'étais assez respectée dans mon travail, mais quand même, de toute manière, j'ai trouvé cet environnement. Et au lieu de se saisir de ma faiblesse et de m'enfoncer, au contraire, ils m'ont aidé. Ils m'ont donné le temps. Et ça a été très bénéfique.
Mmh. Merci pour
votre... Je pense que ça peut exister.
Ah, mais évidemment, on n'est pas en train...
Attendez,
alors...
Il faut le...
D'abord, votre témoignage, il est essentiel parce qu'on n'est pas en train de faire une émission à charge, Florence. Soyons bien clairs. Évidemment, et encore heureux que certaines femmes, dans leur travail, arrivent à en parler et ne soient pas systématiquement discriminées. Mais quand même, on a l'impression que la règle n'est malheureusement pas celle-là, Laetitia Vitou.
Oui, et souvent, le soutien dont on a besoin, le témoignage de Florence le montre très bien, ce moment de la mi-vie, ce que les Américains ou les Anglais appellent la mid-life, c'est un moment où il se passe énormément de choses. C'est-à-dire que non seulement on a une deuxième puberté avec ces changements hormonaux de la ménopause, ça s'étale sur des années, la périménopause, et puis en plus, on devient aidant, très souvent, donc on a un parent qui est malade, on a un conjoint qui traverse quelque chose. Florence parlait d'enfants qui étaient malades, donc ça fait vraiment beaucoup de choses parce que tous ces rôles relationnels, parfois on devient grand-mère en plus, et ça fait à la fois tout le monde autour de nous a besoin de l'aide, a besoin de quelque chose, et on vit des chamboulements compliqués. Et c'est génial d'entendre Florence parce que il suffit d'être soutenu et ça peut passer très bien. Ça veut dire que ces chamboulements, ce carrefour de vie qui peut être si compliqué, il peut bien se passer quand on est soutenu. Donc en fait, il faudrait pas grand-chose.
Est-ce que peut-être il faut quand même essayer d'avoir le courage de le dire ?
Alors quand on
j'ai envie de dire prendre le risque de le dire.
En fait, plus les femmes en parlent, plus ça aide les femmes qui ne peuvent pas en parler.
Oui.
Et donc, quand on est dans une position suffisamment bienveillante, suffisamment, on va dire aussi, dans une position avec un petit peu de pouvoir, toutes choses égales par ailleurs...
C'était intéressant ce qu'elle nous disait d'ailleurs. Elle nous disait « J'ai été respectée dans mon travail, ça a peut-être joué ». C'est pas anodin du tout, cette phrase.
Ouais. C'est pas anodin du tout. Ça veut dire que son expertise était établie, peut-être un poste dans lequel elle se sent la liberté de parler et parler à aider les autres à l'aider, en fait.
Allez, vous voulez dire quelque chose,
Élise ? Juste, il y a un truc, j'apporte un tout petit bémol. En parler, c'est super, mais l'écrire, c'est encore mieux parce que ça permet de protéger en cas de discrimination derrière. Ça fait une trace pour le dossier.
Ça, c'est l'avocate qui
parle. Sauvegardez ce courriel, s'il vous plaît. Merci.
Donc, on sauve le maximum de choses.
Voilà, exactement.
Voilà. Bonsoir, Sophie.
Bonsoir.
Nous vous écoutons. Soyez la bienvenue sur France Inter.
Oui, bonsoir. Je témoignais pour une expérience dans une équipe où je travaille dans l'aéronautique. Depuis bientôt 9 ans, je fais du design d'interface et je me suis retrouvée dans une équipe après 2 ans sur un projet qui se passait très bien, sur une nouvelle mission, face à un collègue designer également. Qu'on a valorisé en fait, que le nouveau chef de projet a valorisé en termes de compétences, et je me suis retrouvée questionnée sur mes compétences en permanence, et ça pouvait se caractériser par exemple par le fait qu'on ignorait totalement toutes mes réponses physiquement, je veux dire. On ne me répondait pas.
Ah, c'est-à-dire que vous aviez l'impression qu'on ne vous écoutait même pas en fait.
Oui, bah, c'était pas une impression, c'est-à-dire que plusieurs fois, quand eux demandaient une expertise sur, enfin, posaient une question sur mon domaine d'expertise, que je répondais. Donc parfois sur des questions techniques, si c'était faisable ou pas, oui, non. En fait, ils posaient cette même question à l'autre personne et sans m'avoir répondu ou sans avoir réagi sans jamais réagir à mes réactions. Ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, je me suis retrouvée en conflit avec ce collègue designer.
Ben oui.
Qui estimait que je lui coupais souvent la parole alors que en fait je n'avais de la part du chef de projet ou de cette personne-là, j'étais tout le temps coupée. Excusez-moi, il y a un écho en même temps.
Ah, on va essayer de régler ça de l'autre côté en régie.
Merci beaucoup.
On règle ça. Ça doit aller mieux déjà.
Oui, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Oui, du coup, en fait, oui, on me coupait tout le temps la parole, mais c'était même pas coupé, c'est que je ne pouvais pas parler du tout.
Vous ne pouviez pas vous exprimer, en fait.
Ah oui, vraiment pas. C'était très difficile, sachant que voilà, c'était pas quelque chose qui était difficile pour moi dans les autres sur les autres projets ou depuis que j'ai commencé à travailler. Et du coup, ça a fini par un conflit où lui s'est mis à me crier dessus et me dire que je ne pouvais pas couper tout le temps la parole comme ça, ce qui était finalement très ironique. Et la conclusion de ce témoignage, c'est que après que le chef de projet qui me traitait de pipelette.
Oui.
Alors je ne parlais à personne, j'étais en télétravail, mais c'est pas grave. Et me couper la parole, donc a fini par me dire que c'est à moi de faire des efforts parce que le designer que j'avais en face de moi était plus âgé, qu'il avait un CV. Et ça a été un argument qui m'est resté dans la tête jusqu'à aujourd'hui. Je comprends pas parce que cette personne, je connaissais son CV. Et il avait moins d'expérience que moi, même s'il était plus âgé que moi, il faisait autre chose. Avant, il faisait du commercial. Le domaine de compétences que j'exerce aujourd'hui, il a 5 ans d'expérience. Moi, j'en ai 9, bientôt 10. Du coup, et j'ai été inspirée d'Adèle Haenel. Et du coup, je leur ai dit, non, je vais pas m'adapter. En fait, c'est pas à moi de m'adapter. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu dire ça? C'est que le reste de l'équipe et mon chef de projet d'avant qui ont été témoins et mes collègues qui ont été témoins de ce qu'on avait pu dire.
Et ils ont pris parti pour vous?
Oui, en fait, ils m'ont appelé chacun, un à un, sachant que j'étais en distanciel, et ils m'ont soutenu et m'ont dit que, en fait, pour eux, sans que je leur en parle, en fait, ils m'ont vraiment appelé leur propre chef initialement, sans que je leur en parle, ils m'ont dit que pour eux, c'était des comportements sexistes et inappropriés, et en fait, s'ils l'avaient pas fait, j'aurais jamais osé dire quoi que ce soit. Moi, ça m'a rendu malade pendant presque 6 mois, je l'aurais pas fait, sachant que je suis à mon compte, et du coup, j'ai pris un énorme risque de perdre cette mission et de perdre tout contrat avec cette entreprise-là.
Bon, et vous avez toujours votre contrat et tout est réglé aujourd'hui?
Oui, ça s'est très bien passé, et au final, je suppose que l'histoire s'est un peu ébruitée, j'en sais rien. En tout cas, j'ai eu le soutien d'autres équipes, d'autres missions qui m'ont redemandé des contrats, en fait. Donc aujourd'hui, je travaille encore pour eux dans des super équipes, et notamment chapeautée par des femmes, mais ceci étant, le chef de projet qui m'a soutenue était un homme aussi. Et ça, j'étais vraiment très étonnée. J'arrivais pas à y croire quand tous les hommes de mon ancienne équipe m'ont appelé pour me soutenir. Voilà.
Eh ben voilà encore un témoignage positif, et pourtant c'était mal parti. Hein. Merci Sophie d'avoir témoigné. Clotilde Coron, puisque vous êtes professeure en sciences de gestion à l'Université Paris-Saclay.
Oui, en effet, c'est
vraiment un témoignage extrêmement édifiant.
Oui, tout à fait, c'est extrêmement édifiant parce qu'on y retrouve plein de choses qui sont documentées par ailleurs, hein, notamment le fait qu'on va toujours mettre en doute les compétences des femmes, notamment dans des métiers plutôt masculinisés, c'est ce que j'entends du témoignage. Le fait aussi que quand une femme donne une idée, mais qu'un homme la reprend derrière, on va finalement donner plus de crédit quand c'est l'homme qui l'a dit plutôt que quand c'est la femme qui l'a dit. Ça, c'est quelque chose qui malheureusement est
connu. Assez classique.
Et ce qu'on voit aussi dans le témoignage, c'est le fait que on va pas forcément évaluer de la même façon un même comportement s'il vient d'une femme ou d'un homme. Donc, on va dire de la femme qu'elle parle trop, par exemple, alors que l'homme, on lui dira rien. étant donné la même quantité de paroles.
On l'a traité de
pipelette. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est un témoignage vraiment, vraiment très intéressant et on est contente que ça tout
que
soit,
ce soit bien,
fini.
Bien fini, parce que ça aurait pu finir chez vous, Élise Fabing.
Je reconnais beaucoup d'histoires de mon cabinet dans ce type de témoignage. Et ce qui est très important, c'est de constituer des preuves. Parce qu'une discrimination sexiste est quasiment tout le temps harcelante. Mmh. Et là, ce qu'elle a vécu, c'est du harcèlement moral. Le fait qu'on l'ait ignorée, qu'on lui ait coupé la parole, qu'on lui ait hurlé dessus. Et elle a vécu ce harcèlement parce qu'elle est une femme face à un binôme homme. Et il faut garder des traces écrites, des témoignages des autres salariés, de l'équipe. Et il ne faut pas hésiter à enregistrer parce que l'enregistrement est une preuve recevable au civil depuis 2 ans. Donc ça peut être extrêmement précieux car le harcèlement, la discrimination, ce sont des domaines où l'oralité est la règle.
Ah oui, il n'y a pas de preuves.
Il n'y a pas de preuves, mais alors on prend tout, on prend les WhatsApp de soutien des collègues, les enregistrements des appels, et il ne faut pas hésiter, enfin il faut vraiment faire ce que j'appelle un mail d'alerte, c'est-à-dire dénoncer les faits dont on est victime pour que l'entreprise ne puisse pas dire qu'elle n'était pas au courant et la renvoyer vers son obligation de préserver la santé et sécurité de ses salariés.
Oui, mais on a peur de faire ça.
On a peur de le faire.
On a peur que ça se retourne encore plus vite contre nous.
Bien sûr, mais l'écrit va protéger parce que dans ces cas-là, il pourrait y avoir une nullité du licenciement parce qu'on se met en position de lanceuse d'alerte quand on écrit ce type de mail.
Oui.
Il faut vraiment bien en garder la trace. La pire des situations, c'est d'en parler à l'oral sans doubler d'un écrit.
D'accord.
Voilà, donc il faut faire attention à ça.
Je vois Clotilde Coron qui est absolument d'accord avec vous. Donc des traces, tout garder.
Et
signaler.
Et signaler, faire des mails d'alerte. Et puis, ne pas hésiter quand il y a des services éthiques aussi à lancer une enquête interne sur des faits de discrimination, de harcèlement. Et maintenant, on a quand même la jurisprudence et l'Europe qui est du côté des femmes et qui, avec la directive transparence des rémunérations, on peut demander la communication des bulletins de salaire des homologues parce qu'en général, quand il y a ce type de traitement favorisé du binôme masculin, ça s'accompagne souvent d'une discrimination salariale. Mmh. Et maintenant, on a des armes au contentieux là-dessus, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut vraiment se protéger, même si on ne veut pas aller au contentieux parce que ça fait très peur. Il faut se protéger.
Oui, ça fait peur parce que... Oui. On manque de confiance en soi. Elle nous disait « j'en étais malade ». Finalement, on préfère en être malade dans son petit coin plutôt que d'aller à la guerre, parce que c'est un peu ça, en fait.
C'est ce qu'elles me disent toutes en arrivant au bureau. Elles me disent « je ne veux pas aller devant le conseil de prud'homme, je ne veux pas aller au contentieux ». On a 80% des dossiers qui se terminent par une issue amiable. Mais on est obligé de montrer un peu les dents, de montrer qu'on est prête à se battre.
Bonsoir Séverine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci. Merci à toute l'équipe que j'adore, que j'écoute depuis toujours.
Merci à vous. Nous vous écoutons, Séverine.
Oui, moi j'avais, au-delà de témoignages un peu classiques, je coche à peu près toutes les cases des femmes embauchées à qui on reproche de tomber enceinte peu de temps après l'embauche, qu'on accuse de déloyauté, etc. Mais surtout, le point sur lequel je voulais revenir, c'est que assez rapidement, après le premier enfant, et puis ensuite un deuxième, le temps partiel s'est imposé à moi, où j'ai fait ce choix, 80%, et puis ensuite 90%, dans des postes où il n'y a pas eu de décharge de travail. En fait, donc d'assumer sa mission jusqu'au bout, au même titre que quelqu'un à temps plein. Et là, aujourd'hui, à mon âge, je suis encore jeune, mais je me rends compte que finalement, mais quelle productivité on a, les femmes. Et je trouve que, avec le recul, à quel moment c'est vraiment reconnu cette productivité? Non pas que les hommes ne soient pas productifs, c'est pas ce que je veux dire, mais finalement, on fait le travail avec 10-20% de paye en moins et surtout de temps en moins. Donc, à quel moment cette productivité, on nous la reconnaît? Voilà, c'était un petit peu ça que je voulais...
C'est une bonne question, Clotilde Coron.
Oui, c'est une très bonne question. Alors, tout d'abord, sur cette question du temps partiel, donc, malheureusement, c'est quelque chose dont je pense la France s'est rendue compte un peu tardivement et les entreprises se sont rendues compte un peu tardivement, c'est-à-dire que le temps partiel, c'était vraiment vu comme un moyen de maintenir les femmes sur le marché du travail. Ce qui, ceci dit, c'est le cas, parce que les pays qui n'ont pas ces dispositifs de temps partiel, généralement, ont un taux d'activité des femmes inférieur supérieure. Mais en revanche, un vrai problème en termes d'égalité salariale, d'autant bah plus oui. que, comme vous l'avez dit, souvent, en fait, une personne à 80%, elle occupe un poste à 100%.
Il y a 22% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, si on prend en compte le temps partiel, et on n'est qu'à 14% si on prend en compte le taux plein. Donc c'est quand même...
Ça explique une grosse partie des inégalités salariales, le temps partiel des femmes, enfin la surreprésentation des femmes parmi les personnes à temps partiel, sachant que, comme vous l'avez dit, souvent, elles occupent un emploi en fait, qui correspond à un temps plein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à se dire, en termes de politique publique ou en termes de politique d'entreprise, que peut-être d'autres dispositifs, comme par exemple la semaine de 4 jours, sont des dispositifs qui sont peut-être plus intéressants d'un point de vue d'égalité femmes-hommes, parce que finalement, c'est la même chose que ce que vous dites, mais avec un salaire équivalent à un temps plein. Et sur la productivité, c'est quelque chose qui est connu, mais alors pas forcément
dit en tant que tel. Elle n'est pas reconnue, mais il y a des statistiques sur la productivité spécifiquement féminine ou pas ?
Alors non, mais ce qui est connu, c'est que les femmes vont vraiment se concentrer sur le travail, c'est-à-dire qu'elles vont faire moins de pauses, elles vont faire moins de choses informelles. Mais le problème, c'est que ça, c'est aussi négatif pour leur carrière, parce qu'en fait, la carrière en entreprise ou dans les milieux professionnels, ça se fait beaucoup par l'informel. On va boire des verres avec des collègues, on va faire une pause déjeuner, on va parler de choses et d'autres. Et en fait, la carrière se fait beaucoup par cooptation, par réseautage, donc entendre parler des choses.
Et
donc
il y a le savoir-faire et le faire savoir.
Exactement,
et donc
c'est
on
ça.
Est plutôt meilleur sur le savoir-faire que l'inverse, c'est ça ?
C'est ça, on sait que les femmes vont se concentrer vraiment sur « je fais » et un peu moins sur « je fais savoir » et que c'est problématique finalement aussi pour leur carrière malheureusement.
Effectivement, la problématique du temps partiel, Laetitia Vito.
Alors c'est un piège, c'est un triple voire un quadruple piège, le temps partiel. Le cas des 4/5e est typique, c'est-à-dire que la plupart des femmes aux 4/5e ont une charge de travail qui est identique à celle d'un temps complet, mais le paye avec un cinquième de leur revenu la possibilité d'avoir un tout petit peu de flexibilité un jour dans la semaine pour les activités des enfants ou des choses comme ça. En général, c'est pour s'occuper des autres, rarement pour se faire plaisir. Donc c'est un prix, c'est cher payé. Voilà, c'est cher payé un cinquième de salaire pour faire le même travail.
Bon, on aurait eu encore 1000 choses à dire, on aurait pu parler de la pénibilité, mais on a plus le temps, parce que là aussi, il y a des inégalités flagrantes. Merci à vous trois. Merci Elsa Fabing, merci Laetitia Vito, merci Clotilde Coron, merci à toutes celles qui nous ont appelées ce soir. Après 20h, à suivre Les Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Grégoire, j'ai 8 ans et j'aimerais savoir si on peut arrêter le réchauffement climatique. Merci, au revoir.